Les jardinières.
Soyez les bienvenus chez Les Jardinières et on en profite parce que c'est la DER avant les grandes vacances. Bonjour à tous, bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Et il n'est pas encore sous les tropiques et nous a rejoint ce matin pour répondre à vos questions jardinage, c'est Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. Merci d'être avec nous ce matin.
Et je vous propose de ne perdre aucune seconde dans cette dernière. On est parti pour une heure de jardinage.
7h, 8h. Les jardinières.
Les vacances arrivent. Jean-Pierre, oui, avez-vous quelques conseils à donner aux personnes qui partent et qui laissent leur potager, leur fruitier, tout ça à la maison, histoire de ne pas les retrouver, histoire plutôt de les retrouver en forme à leur retour de voyage?
Oui, alors à cette période précise où on est en période humide et puis qu'on espère qu'on en sorte assez rapidement maintenant parce qu'on aurait eu assez d'eau, je pense. Mais pour ceux qui partent 15 jours, 3 semaines, les grandes mesures, ce sera en tout cas pour ce qui se passe dans les pots, les jardins suspendus et autres. Là, il faut se prémunir quand même d'un appui d'arrosage si vraiment on avait du sec qui arrive, parce que si vous laissez ces surfaces 10 ou 15 jours sans arrosage et puis qu'on a de nouveau des températures agréables d'été qui doivent être un peu plus chaudes que ce que l'on vit, eh bien les terreaux se dessèchent totalement et puis bien sûr la perte hydrique se fait sentir au niveau de la végétation. Et puis après, pour récupérer ces terreaux, il y a des fois carrément le bassinage de la surface est nécessaire, parce qu'un terreau très sec, pour le remettre en humidité, eh bien il faut l'arroser énormément ou le bassiner. Donc vraiment un suivi sur l'arrosage sur ces structures-là. Et puis après pour le potager, non. Alors tout ce qui se trouve en pleine terre arrive à survivre sans trop de problèmes, parce que vraiment on a eu une grosse période de pluie là. Les stocks sont là, les végétaux ne sont plus en souffrance. Et puis je pense que pour celui qui n'a pas justement ses pots, ses bacs en terrasse, et bien là, il peut partir sereinement en vacances.
Eh bien écoutez, on espère que tout se passe bien pour les jardins de nos auditeurs pendant ces vacances. Merci Jean-Pierre, vous allez rester avec nous évidemment jusqu'à 8h pour répondre aux questions de nos auditeurs que l'on attend avec impatience par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ou en remplissant le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission questions jardinières, ou alors par SMS, c'est le moyen le plus simple. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question, vous nous envoyez tout ce petit monde au 939.
Dans la suite des jardinières, Jean-Pierre, vous allez nous expliquer quoi faire après les tempêtes, les orages ou la grêle qui sévissent en été et font des dégâts au jardin.
7h, 8h, les jardinières.
Parfois, les éléments se déchaînent, vent, pluie et même grêle peuvent en quelques minutes ravager votre potager ou vos arbres. Ce matin, Jean-Pierre va nous donner quelques bons conseils pour mieux supporter les tempêtes et surtout quoi faire après son passage. Jean-Pierre, pour commencer, on va parler du vent. Les fortes rafales de vent peuvent casser les grandes plantes ou briser des branches. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire si on sait que de fortes rafales sont annoncées ?
Oui, alors quand elles sont annoncées, c'est presque un peu tard d'intervenir, parce que évidemment, vu les grandes bourrasques qui peuvent arriver, les mesures sont délicates à l'annonce. Par contre, ce qui peut se faire, c'est au préalable, bien sûr, durant l'hiver ou au printemps, lorsque on s'imagine qu'il faudrait tailler des végétaux, eh bien, celui qui taille le végétal va porter garde aux structures qui pourraient être dangereuses, qui pourraient être délicates durant l'été. On va limiter les longueurs, on va limiter les porte-à-faux, on va, au niveau des tailles, supprimer tout ce qu'il y a de branches qui se croisent. Ce sera toutes des mesures qui seront au préalable prises par rapport à ces dégâts de gros vents qui peuvent nous arriver. Et puis aussi, on rencontre de temps en temps dans des aménagements, dans des parcs, des arbres avec une multitude de troncs, de branches qui partent à la verticale. Alors là, quand c'est des éléments qui pourraient être mis en danger par rapport au vent, puis qu'on souhaite les conserver, de temps en temps on les aubane, on les câble, on attache en fait les grandes structures ensemble dans la couronne pour éviter justement de ces départs de charpentières et puis qu'ils puissent se casser par rapport au vent. Et puis après, bien sûr, tout ce qui est petite plantation, nouvelle plantation, et bien le tutorage qui aurait été mis en place avant va faire son travail de maintien du végétal si on a des bourrasques. Mais c'est vraiment des mesures qu'il faut prendre avant l'annonce, parce qu'à l'annonce, vous avez déjà vu, hein, l'annonce elle est dans 5 minutes, la bourrasque elle arrive, donc c'est un peu tard.
Et à l'inverse, Jean-Pierre, une fois que le vent est tombé, est-ce qu'il faut observer quelque chose en particulier ?
Alors, si c'est des végétaux qui sont sur une avenue, sur des passages, sur des places de parc, sur des terrasses, bien sûr que là, on les observe. Et puis, si on se rend compte qu'il y a des branches qui sont en porte-à-faux, qui ont été cassées quand même, qui se sont fissurées, eh bien, les mesures de taille de nettoyage sont indispensables pour limiter les risques au niveau des sols. Après, quand c'est dans des grands parcs, eh bien sûr, un contrôle se fait. Et puis, le nettoyage de ces éléments se fait également.
Et puis justement, le vent annonce souvent la pluie. Jean-Pierre, quelles sont les conséquences de fortes pluies au jardin ?
Alors les fortes pluies, quand on a un sol qui est très très sec, il provoque souvent des ravinements. L'eau a de la peine de pénétrer dans les sols et puis ruisselle et puis peut poser problème par rapport à l'élément que vous auriez autour. Après, si le sol est déjà passablement humide, ce n'est pas un grand problème parce qu'évidemment cette eau se pénètre facilement dans le sol et puis fait une bonne irrigation. Ça a été super positif il y a 15 jours, 3 semaines, là, les pluies qu'on a eues qui étaient douces. Après les grands orages, eh bien, comme je vous ai dit, le risque, si vous avez en plus un sol qui a été travaillé frais, une pelouse qui vient d'être mise en place, on a des gros ravinements, l'eau ne pénètre pas et s'écoule sur le sol. Son désagrément, c'est qu'elle tire en même temps les semences parce qu'elles sont beaucoup plus légères que la terre. Donc elle vous fait des amoncellements de semences dans les bas de pente. Et puis si ça ruisse dans les canalisations sur les terrasses, eh bien évidemment, le démarrage de la semence va se faire entre les dalles, entre les pavés, ou obstruer des canalisations. Donc on n'aime pas des sols qui sont dégardés en cette période. Et puis en plus, si vous avez juste réalisé un semis de gazon et autres, et puis qui fait très sec, le mieux c'est de l'arroser, de le tenir un peu humide avant, justement pour permettre au moins la pénétration de cette humidité qui arrive en masse. Parce que si, encore une fois, la surface est très très sèche, cette eau aura de la peine à pénétrer.
Et à l'inverse, c'est quoi les premiers réflexes à avoir au jardin, Jean-Pierre, après un orage ou une tempête ?
Après, c'est selon. Si vous avez des canalisations obstruées, ben bien sûr, faut s'empresser de les nettoyer parce que vous avez des fois des détritus végétaux, des amoncellements de cailloux, des choses comme ça qui viennent obstruer ces canalisations. Donc, ça va pas permettre l'évacuation de ces eaux. Après, pour ce qui est du reste du potager ou du jardin, eh bien, en tous les cas, le potager, si vous avez une grosse croûte de terre qui s'est créée par rapport à cette arrivée d'eau en masse, là, c'est nécessaire de biner, de casser cette croûte, parce qu'on sait qu'une terre qui est affinée, qui est compacte, l'humidité du sol va s'évaporer beaucoup plus facilement par capillarité que si vous avez une surface qui aurait été cassée, croûtée. Donc le binage est super nécessaire. Également, ce sera une lutte super efficace contre les arrivées des annuelles, des plantes vivaces, des arrivées d'herbes indésirables qu'on ne voudrait pas dans ces carrés de potager.
Merci Jean-Pierre, on parle tempête ce matin chez les jardinières. Suite
comme
de...
un ouragan.
Non, on parle de tempête naturelle. Arrêtez de faire venir. On va vous retrouver juste après une pause musicale. C'est Ava Max qui va chanter par Raphaël.
7h, 8h. Les jardinières.
Ce matin, nous suivons les conseils de Jean-Pierre Ribaud pour remettre sur pied ses végétaux après le passage d'un gros orage ou de grêle. Nous avons parlé de la pluie, du vent. Parlons maintenant justement de la grêle. La grêle peut tout hacher et casser sur son passage. Fleurs, fruits et légumes sont plus ou moins abîmés. Les impacts de grêle étant autant de portes d'entrée pour les parasites. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on fait déjà pour éviter d'ouvrir cette porte aux parasites ?
Oui, alors c'est vrai qu'après les orages de grêle que l'on a connus ces semaines dernières, dans les potagers, c'est vraiment du hachis, c'est vite la déconfiture. Et puis, il est difficile d'intervenir au préalable, bien sûr. Une fois que cet orage sera passé, ce qu'il faut faire, c'est passer, nettoyer le matériel qui aura été détruit, tout ce qui est haché au niveau du sol. Il y a peut-être même des carreaux de salade ou de tomates qui seront totalement détruits, totalement hachés, pardon. Alors il y a de temps en temps de refaire carrément le carreau, et puis si tel n'est pas le cas, si on a encore un espoir que cette culture puisse repartir, on va nettoyer un peu les éléments qui seront cassés, on peut tailler un peu les tomates, essayer de sauver ce qui peut l'être. Une intervention au niveau chimique, c'est plus compliqué sur le potager parce qu'on est sur des périodes où les récoltes pourraient être assez rapides dans les 15 jours, 3 semaines et puis le délai de carence sur les phytos ne serait pas respecté. Mais si vous avez des rhubarbes ou des choses comme ça puis que vous avez peur, c'est surtout de la maladie qu'on peut avoir au niveau du dégât par rapport à une grêle. Le parasite moins, mais la maladie bien sûr c'est des portes d'entrée et puis un fongicide peut se conseiller sur des éléments qui seront récoltés beaucoup plus tard dans la saison. Après, à l'évidence, on ne va pas traiter un carreau de pommes de terre contre un champignon éventuel par rapport à la grêle, parce que le végétal sera très stimulé au niveau de la pousse future, étant donné qu'il aura été très attaqué par la grêle. Et puis, on sait qu'une plante qui est en pleine pousse sera beaucoup moins sensible aux champignons par rapport à ce qu'il aura vécu avant.
Jean-Pierre, est-ce que c'est une bonne idée de couvrir ces arbustes si on a le temps avant la grêle avec une bâche ou un filet pour un peu éviter la casse ?
Oui, alors bien sûr, ça se pratique même dans les cultures intensives comme les fruitiers. Un filet est le mieux, une bâche pas, parce que la bâche, elle va encore conserver l'eau, et puis le poids, et puis tout ça causera encore plus de dégâts. Mais évidemment, un filet, on trouve ça dans le commerce, des filets de protection. Si vous pouvez emballer vos petits fruits, si vous pouvez couvrir les carrés de potager que vous avez, évidemment, la grêle va tomber là-dessus, gonfler, et puis atténuer vraiment les dégâts.
Mais là, il faut être rapide.
Alors oui, bien sûr, oui. C'est pour ça que dans les cultures intensives, les gens qui vivent de ces produits, plutôt que de se couvrir avec des assurances grêles qui coûtent des fortunes, ils investissent une fois avec des filets en protection qui tirent toute l'année dans la partie aérienne des structures et puis qui vont protéger ces cultures.
Les jardinières.
Deuxième partie des jardinières, nous sommes ce matin en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Et vous avez jusqu'à 8h pour lui poser vos questions jardinage et profiter parce que c'est la dernière émission avant les vacances d'été.
Et donc pour poser vos questions, vous avez trois possibilités pour le faire par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute et la chance de parler en direct avec Jean-Pierre. Vous pouvez également remplir le formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières en y joignant une photo à votre question pour être le plus complet possible ou encore par SMS vous tapez jardin un espace suivi de votre question que vous nous envoyez au 939.
Et avant de répondre aux questions des auditeurs, on va revenir un petit coup encore sur les tempêtes, c'était notre sujet ce matin. Jean-Pierre, après le passage d'un orage, du vent ou de la grêle, on se retrouve avec souvent des branches cassées de nos arbres, des arbres en piteux état. Est-ce qu'il faut panser les plaies comme nous quand on se fait mal, on met un sparadrap ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ?
Bonne question. Non, parce que en général, une bonne attaque de grêle, elle vous cause aussi passablement de dégâts sur tronc, sur branchage. Si c'est des petits végétaux, des jeunes fruitiers qui ont été plantés, ils seront marqués pour quelques années. C'est des éléments qui vont se cicatriser assez facilement. Ce qu'on peut faire quand même, évidemment, c'est un produit fongique pour limiter les interventions des champignons qui pourraient entrer par ces plaies. Donc un fongique, ce serait judicieux. Par contre, ce qu'on peut aussi faire, surtout quand c'est des jeunes plantations, on a souvent de la casse sur les pousses annuelles. À cette période, c'est des branches qui ont démarré ce printemps qui peuvent faire 20-25 cm. Et puis du côté de l'attaque de la grêle, parce qu'elle tombe rarement à la verticale, elle tombe toujours de côté, le côté de l'attaque de la grêle, vous aurez de ces démarrages de branches qui seront cassés. Alors le problème, c'est que par l'intervention de la grêle, cet élément qui est cassé, il va avoir un certain temps de réaction pour redémarrer par rapport au côté de la grêle qui n'aura pas été attaqué, donc les charpentières et autres. Et puis ça va créer un déséquilibre sur la structure du fruitier, surtout si c'est des jeunes plantations qui sont en pleine formation. Alors là, ce qu'on fait avec un sécateur, bien sûr, on peut enlever tous les éléments qui ont été cassés parce que c'est pas cassé net, c'est éméché, et puis on raccourcit la partie qui n'aura pas été en dégâts par la grêle pour équilibrer le végétal, parce que sinon il sera déséquilibré pour 2-3 ans, et puis ça pourrait poser problème après dans le futur pour le développement du végétal. Ce qu'on peut aussi dire aussi, c'est pour ceux qui sont passionnés de rosiers et puis qui ont des jolis massifs, après un passage de grêle en général, il n'y a quasi plus rien au niveau de la floraison. Alors c'est la bonne période, juste après la grêle, de venir rabattre ces rosiers sur des yeux en dessous de ces ramifications qui auront été éreintées. On sait que le rosier, c'est un arbuste qui fleurit sur le bois de l'année, et puis plus il sera taillé, plus il va être stimulé à la pousse, et puis plus vous aurez de pousse, bien sûr, plus vous aurez une super deuxième mise à fleur de ces roses.
Est-ce que, Jean-Pierre, vous avez un dernier conseil à nous prodiguer ?
Alors, par rapport à la grêle, non, parce que c'est quelque chose qui arrive, que vous n'arrivez pas à maîtriser, puis qu'on peut pas prendre de mesures particulières, si ce n'est une protection de filet, comme on a cité tout à l'heure. Là, vous êtes obligé de laisser passer l'orage, et puis après de réceptionner les dégâts, je suis désolé.
Oh. Merci beaucoup Jean-Pierre, en tout cas pour tous ces bons conseils sur comment réussir à avoir un potager quand même en état après une tempête. On va se retrouver dans quelques instants, on va répondre aux questions de nos auditeurs et on peut déjà vous dire qu'on va parler de choux.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. On répond à vos questions jardinage, des questions que vous pouvez poser par téléphone au 0900 70 20 20, comme l'a fait notre auditeur, Raphaël.
Exactement, on a Jean-Philippe qui nous a appelé ce matin. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Votre question pour Jean-Pierre.
Voilà. Ça fait plusieurs années que je suis envahi du liseron rampant. On m'a dit, essaye de l'arracher. J'ai essayé, il revient toujours. Après, on m'a dit, essaye de l'étouffer avec une toile noire. J'ai mis deux couches de toile noire. C'est encore plus proliféré dessous. C'est venu droit à un tapis. Alors maintenant, ça revient toujours. J'ai des racines blanches, puis après, en bas, c'est des brunes de 3 mm. Quoi.
Oui, bonjour Jean-Philippe. Il est vrai que le liseron est une plante qui est problématique à l'élimination. Nous, je dois dire que malheureusement, on utilise un phyto. C'est un herbicide foliaire qui donc est absorbé par le feuillage. C'est une hormone en fait. Et puis la sève va véhiculer ce produit sur l'ensemble du végétal et vous faire périr, y compris les racines que vous avez. Sans le phyto, alors c'est vraiment une lutte avec un binage profond. Donc vous enlèverez tout ce qui se trouve déjà sur sol. Et puis après, lors du binage, toutes les parties végétales du liseron que vous trouverez, eh bien faut les ramasser et puis les évacuer. Sans quoi, à l'étouffement, ce sera compliqué parce qu'effectivement, il a une telle résistance que même dans les bâches qu'on utilise pour éviter les arrivées d'indésirables dans les talus, dans les structures, il arrive à percer, à passer entre les mailles. Et puis, un plastique n'est pas la solution parce qu'il va se traîner par-dessous et puis toujours arriver à trouver une sortie. Donc le mieux, c'est mécanique, ça veut dire un bon larronnage profond, ramasser tout ce que vous trouvez en détritus. Il faudra passer deux ou trois fois. Et puis sinon, avec des produits chimiques, alors avec un petit pinceau et puis vous trouvez ça dans le commerce, hein, c'est des hormones, c'est un produit qui est relativement facile à trouver. C'est aussi les mêmes bases que les produits qu'on utilise, si on en utilise sur les désherbants sélectifs des pelouses. En fait, c'est une hormone qui vous enlève tout ce qui est des dicotylédones, comme on les appelle, et puis qui se détruit par la suite.
Oui, parce que ça va profond, ces racines, hein, ça va 40 à 50 cm.
Hein. Je sais, c'est pour ça que nous, on évite les luttes mécaniques parce qu'on sait qu'on n'arrive pas. Ou bien alors, si c'est un carré où vous pouvez admettre que vous mettrez de la pelouse pendant quelques années, puis déplacer le carreau que vous utilisez pour, je sais pas, en fait, vous l'utilisez pour quoi, vous avez ce liseron?
Oui, j'avais une fois mis de la doucette sous une petite serre. Oui. Et puis après, ça a commencé à tenir, et puis j'ai pas fait attention, j'ai laissé. Oui. Et puis voilà, après, ça a envahi, quoi, sur 7-8 mètres sur 2. J'ai un jardin de 2 mètres de large, et puis ça m'a pris sur 7-8 mètres, quoi.
Ouais. Bon, mais de toute façon, le liseron, c'est une plante qui va pas supporter la tonte. Donc si vous arriviez à déplacer votre carreau de potager ailleurs où vous n'en avez pas, puis où vous avez ce liseron, vous faites un semis de pelouse, avec le temps, le liseron va disparaître, et puis vous pourriez alterner, admettons, ce serait aussi un principe de lutte, voilà.
En tout cas, on vous souhaite bon courage, Jean-Philippe, avec ce liseron. On le sait, la nature est toujours plus forte que l'humain, mais on trouve toujours des solutions. On vous souhaite un bon week-end, Jean-Philippe.
Merci, de même à vous.
Merci, au revoir. Merci. On va parler de choux avec vous, Jean-Pierre. J'ai des choux et des rucolas attaqués par je ne sais pas quoi. Serait-il possible de combattre cette maladie par purin de consoude ou rhubarbe ou ortie? C'est une question de Paola de Dombresson. Et à sa question, elle a joint une photo. On voit une feuille de choux. Effectivement, elle a l'air attaquée. Il y a des petits trous et puis ça fait des petites taches blanches sur les feuilles.
Oui, alors effectivement, j'ai la photo sous les yeux de Paola. En fait, le parasite que le chou a, c'est une altise, c'est un coléoptère noir, pas très grand, qui sera difficile à observer sur la plante. C'est un parasite qui vient au sol et puis qui remonte quand il a envie de se nourrir sur la feuille du chou. Alors effectivement, un purin d'ortie, de sureau, même des feuilles de tomates que vous pourrez faire en décoction, ça veut dire vous prenez vos feuilles, soit du sureau, soit de l'ortie, soit de la tomate, vous la chauffez pendant 10-15 minutes à 40-50 degrés au niveau de la chauffe, et puis après vous laissez refroidir tout ça, et puis le fait d'arroser, de pulvériser sur vos feuilles va créer une odeur, une situation qui va être totalement désagréable par rapport à l'altise. Ce que vous pouvez aussi faire pour une lutte préventive, c'est quand vous avez des déchets de coupe ou des feuilles de sureau ou d'ortie, vous pouvez couvrir le sol avec ces déchets de coupe que vous aurez. Et puis, comme l'altise se trouve au sol, elle va se délocaliser et puis vous aurez votre carreau de chou qui va s'emporter d'autant mieux.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Je vous propose d'enchaîner avec cette question de Daniel qui nous a écrit sur notre site internet et il nous a écrit « Mon gommier devient envahissant, est-ce que je peux couper certaines branches à cette époque et comment procéder ?» Il y a la photo qui a été jointe avec et c'est vrai qu'il prend passablement de place dans sa salle à manger ce gommier.
Il est très beau.
Effectivement, oui, on peut le féliciter parce qu'il a un soin voué de qualité, ce gommier. Effectivement, on peut le tailler, même maintenant, il n'y a pas de souci, c'est une plante qui supporte très bien la taille, d'autant plus que son état sanitaire est fantastique, il est d'un vert fantastique. Au niveau de la taille, on prendra garde de couper en dessus d'une feuille, pas en dessous, mais en dessus, pour permettre justement un redémarrage du dernier bouton qui se trouve à l'interstice de cette feuille, pour ne pas avoir d'éléments desséchants par la suite sur ce gommier. On prendra soin de tailler l'ensemble des pousses, parce que si vous en laissez une partie non taillée, votre gommier va réagir en poussant d'autant plus sur les sections qui n'auront pas été taillées, et puis il mettra beaucoup plus de temps pour redémarrer les yeux latents que vous aurez sélectionnés par cette taille. Donc on fait une taille générale, l'ensemble, on l'arrondit. Ce qu'il ne faut pas oublier, le gommier, c'est qu'une fois que vous l'aurez taillé, il va créer des gouttelettes de sève qui vont tacher le sol, qui sont très collants. Donc ça vaut la peine de faire une protection au niveau du sol pour éviter ce latex qui va couler et tacher. Ce sera plus facile pour le nettoyage par la suite.
Merci pour ces bons conseils pour Daniel. On espère qu'elle a bien noté, qu'elle a tout écouté. On va se retrouver une dernière fois après cette dernière pause musicale. Et ensuite, ça sera les vacances.
Oui. 7h, 8h, les jardinières.
Dernière partie des jardinières. Il nous reste encore le temps pour répondre à cette question de Christelle des Gennevesse-sur-Cofrane qui nous dit « Bonjour, mon jardin est envahi de prêles. Que puis-je faire pour la retirer ?» Merci, bonne journée. Alors Jean-Pierre, on vous laisse lui répondre.
Oui, c'est pas tout simple, effectivement. Bonjour Christelle. La prêle, c'est cette vivace qui fait une forme de petit sapin de 25-30 cm et puis qui, quand elle est là, elle est là. Hormis le produit phyto de nouveau très spécifique qu'on trouve dans le commerce, qu'il faut se documenter auprès d'un super pro parce que c'est vraiment un produit, on le trouve assez facilement, mais avec une éponge, vous prenez ce produit, vous léchez les brindilles de cette vivace et puis là vous arrivez à vous en défaire parce que là c'est sûr que même avec une bâche, même avec n'importe quelle structure, vous n'arriverez pas à la combattre. Ou alors, encore une fois, de déplacer le carré de potager que vous avez, la prêle ne va pas supporter la tonte, mais il n'y a que par ces deux biais-là que vous arriverez à vous en défaire. C'est une plante qui vient dans une terre qui n'est pas de super qualité, elle est très robuste, elle a des racines très profondes, et puis c'est vrai que quand on en a, alors le mieux c'est de s'en défaire au plus vite, parce que sinon elle se prolifère très vite, elle s'épanouit bien sûr, d'autant plus dans un potager, parce que vous avez encore des espaces qui sont ouverts, vous la binez, vous la multipliez au binage, Et puis le fait d'être dans un carré où il y a que des radis ou des salades, elle est en pleine lumière, elle est au top pour s'épanouir. Donc, mais chimiquement, au déplacer le carré du potager, et les deux mesures que je pourrais vous citer pour vous défaire de cette prêle.
Voilà. Ou bien alors en faire une décoction et l'offrir à ses voisins.
Alors c'est une bonne lutte effectivement pour les pucerons et autres, mais elle est vite abondante et puis il y en a vite en surnombre.
Merci Jean-Pierre d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. C'est bientôt les vacances, mais avant de vous laisser partir, dites-nous, c'est quoi le programme du jardinier ce week-end ?
Ouais, ce week-end, un peu de tonte, un peu de rafraîchissement de plate-bande. Dans le potager, pour ceux qui vont partir en vacances, peut-être prélever le maximum qui soit prêt à la récolte maintenant ou même un peu précoce, parce qu'on sait que dans 15 jours, 3 semaines, avec les conditions météorologiques qu'on a eues et l'humidité, les potagers vont multiplier vitesse grand V, puis il y aura peut-être trop ou en abondance ou déjà trop tard pour la récolte en sortie de vacances.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysage à Queuves. Bonnes vacances et on se réjouit de vous retrouver à la rentrée.
Vous êtes adorable, puis bel été à tout le monde.
Oh, vous êtes adorable aussi Jean-Pierre.
Pas l'habitude d'avoir des compliments comme ça.
Et il est temps pour les jardinières de prendre congé. On va se retrouver, si je ne me trompe pas, le samedi 20 août dès 7h. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les émissions des jardinières en podcast sur notre site. Si on vous manque trop, vous avez de quoi faire. Hein, voilà.
Ah, y a du stock.
Y a tout ce qu'il faut. Bonnes vacances Raphaël.
Et puis bonnes vacances Milena.
Et bel été à toutes et à tous. Hâte de vous retrouver en pleine forme. Prenez soin de vous et bel été.
7h, 8h. Les jardinières.